Bienvenue sur France Culture si vous nous rejoignez maintenant. Il est midi et demi. Tout de suite, c'est l'heure du journal de Camille Magnard. Bonjour Camille.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. Il entend les manifestants, mais pas question de changer de ligne sur la réforme du travail. Édouard Philippe droit dans ses bottes après la première journée de mobilisation syndicale et avant les suivantes. Une nouvelle vient d'être annoncée pour le 25 septembre par la CGT et FO Transport. Le grand chantier du logement annonce du projet de loi repoussé d'une semaine, mais Édouard Philippe qui précise tout de même son contenu. Il promet notamment que la baisse des APL d'environ 50 euros par mois pour les locataires de HLM sera entièrement compensée par des baisses de loyers. Jean-Claude Juncker, lui, relance la machine à rêve européenne, discours sur l'état de l'Union particulièrement ambitieux ce matin à Strasbourg. Avant de quitter ses fonctions l'an prochain, le luxembourgeois pose en bâtisseur d'avenir, c'est ce que nous verrons avec Quentin Dickinson. Le fil du dialogue n'est peut-être pas entièrement rompu au Venezuela. Pouvoir et opposition sont en République dominicaine ce mercredi pour tenter de relancer des pourparlers de réconciliation nationale. Réconciliation administrative en Turquie avec ce projet de loi qui prévoit d'amnistier 10 000 fonctionnaires de l'époque Ben Ali. Nous suivons les manifestations d'opposition avec Maureen Mercier à Tunis. Quelle posture pour Emmanuel Macron et Édouard Philippe alors que la rentrée sociale et politique est bel et bien là? Ça y est, ce sera le sujet de notre séquence interview avec le politologue Jérôme Sainte-Marie. Entre 220 000 et 500 000 personnes dans les rues de France hier contre la réforme du Code du travail et après, question posée au lendemain de cette mobilisation, donc à l'appel de la CGT qui y voit un succès et la promesse d'un mouvement plus fort encore dès la prochaine journée de manifestation le 21 septembre, ce sera vendredi prochain. Pour le syndicat et pour les opposants aux ordonnances, c'est bien un bras de fer qui est lancé, un jeu dans lequel refuse d'entrer le Premier ministre Édouard Philippe. Il l'a dit ce matin chez nos confrères de France 2.
C'est pas du tout un bras de fer. Moi, je n'envisage pas cette étape de la transformation de la France comme un bras de fer.
Oui.
Peut-être, mais moi, je ne l'envisage pas comme cela. Moi, ce que j'essaie, c'est de faire en sorte que le mandat qui nous a été donné par le peuple français, par les électeurs, soit mis en acte. La contestation, je la respecte. Elle est là, je l'écoute. La liberté de manifester est une liberté fondamentale en France. Et ceux qui s'inquiètent ou s'opposent à ce texte ont parfaitement le droit de manifester dans l'ordre et en respectant la loi. Mais ils ont parfaitement le droit de le faire. Il faut respecter ce droit. Donc, j'écoute et je suis attentif.
Mais vous ne changerez rien.
Mais je me permets d'indiquer que les Français, quand ils s'expriment par leur vote et au moment des élections, ils ont également le droit d'être respectés. La réforme que nous mettons en œuvre, elle a été annoncée par le président de la République au moment de l'élection présidentielle.
Édouard Philippe sur le plateau de France 2 ce matin. Bonjour Sophie Delpont.
Bonjour.
Du service politique de France Culture. On l'entend dans les propos du Premier ministre. Selon lui, la loi de la rue qui s'exprimait hier ne doit pas primer sur la loi des urnes.
Oui, Édouard Philippe met en avant la légitimité démocratique d'Emmanuel Macron face à celle de la contestation dans la rue. Pour le Premier ministre, c'est la pédagogie qui permettra de désamorcer la colère selon les éléments de langage de La République En Marche. Il espère surtout que la division syndicale et politique empêcheront l'épanouissement d'un bras de fer de grande ampleur. D'ailleurs, il évite soigneusement le mot, car réussir ce test des ordonnances est indispensable pour la suite de la feuille de route qu'il portera ensuite sur l'assurance chômage et les retraites notamment. Dans les pas du chef du gouvernement, la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, réaffirme ce matin, on ne reculera pas.
Alors si on regarde du côté à présent de l'opposition, qu'elle soit syndicale ou politique, on sent bien que tout le monde rêve d'un scénario à la 1995, un mouvement social qui monterait crescendo jusqu'à paralyser le pays et forcer le gouvernement à retirer sa réforme. Il y a des éléments objectifs dans la situation actuelle qui soutiennent cette comparaison?
Alors tout d'abord Alain Juppé, hein, droit dans ses bottes, a d'abord parié sur le pourrissement. Édouard Philippe, juppéiste, devenu Premier ministre, adopte la même position. Impossible pour l'instant de connaître l'ampleur que pourrait prendre ce mouvement de contestation, mais à l'époque, sous la pression du mouvement de grève d'une ampleur exceptionnelle, quelques mois seulement après l'élection de Jacques Chirac, Alain Juppé avait dû retirer sa réforme. On se souvient des transports paralysés pendant 3 semaines, des centaines de milliers de manifestants mobilisés dans les rues, soutenus à l'époque aussi par l'opinion publique. On est encore très loin de ce scénario, notamment en raison de la désunion syndicale, mais ce matin, les fédérations CGT et FO des transports ont appelé ensemble le secteur routier à une grève reconductible à partir du 25 septembre pour demander le retrait de la réforme. Une nouvelle date dans la contestation après celle du 21 septembre de la CGT et du 23 septembre à l'appel de la France Insoumise. La différence fondamentale par rapport à 95, c'est que le bras de fer était alors mené par les syndicats. Cette fois, le mouvement de Jean-Luc Mélenchon appelle lui aussi à un rassemblement qui se veut complémentaire mais qui divise le front de la contestation.
Sophie Delpont, merci à vous. On a envie de poser la question forcément à notre invité, Jérôme Sainte-Marie. Bonjour.
Bonjour.
95-2017, pour vous donc qui êtes politologue, président de la société de conseil Politvox, c'est quelque quelque chose qui a du sens en termes de comparaison, au stade où on en est en tout cas de ce début de contestation sociale ?
Non, je crois que la situation est radicalement différente. À l'époque, on était encore dans un rapport gauche-droite traditionnel. Et puis surtout, Jacques Chirac, en 95, s'était fait élire, vous savez, sur la réduction de la fracture sociale et avait paru renier en quelque sorte au mois de septembre, puis d'octobre notamment. Et ça avait donné des arguments très forts. Et bien sûr, aux grévistes. Je voudrais même souligner que depuis 30 ans, toutes les réformes sont passées, sauf dans deux cas. Quand il y a grève, et c'est très difficile de faire grève quand il y a un chômage de masse, quand les salariés sont endettés, etc. Ou alors quand il y a des manifestations, mais des manifestations de jeunes. C'était le cas pour le CPI, le CIP et le CPE ensuite. Voilà, dans ce cas-là, effectivement, le pouvoir, vous savez, depuis l'affaire Maloukou-Sekine en 86, le pouvoir a peur de débordements, de la mort de manifestants, de jeunes, donc.
Il y avait beaucoup de jeunes dans les rues dans hier, en tout cas, une bonne composante.
Donc, effectivement, l'important, c'est pas de savoir s'il y aura des manifestations importantes ou pas, justement, puisqu'il y en avait eu à l'époque la loi sur les retraites menée par M. Fillon sous Sarkozy, puis ensuite pour la loi El Khomri, ça n'avait pas abouti à une victoire des contestataires, tout au contraire. La question est de savoir effectivement si les éléments qui viennent d'être évoqués sur des débuts de grève dans les transports ou bien la participation de jeunes, d'étudiants, de lycéens à ces manifestations, si ces éléments-là se concrétisent, alors là le jeu devient beaucoup plus ouvert.
Voilà, on va prendre le temps de détailler donc la situation actuelle, situation sociale et politique avec vous, Jérôme Sainte-Marie. On vous retrouve dans la séquence interview de ce journal. Parmi les contre-feux ouverts par le gouvernement pour faire parler d'autre chose que de la réforme du travail, il y a le logement, sujet concernant, s'il en est, avec une stratégie qui peut un peu surprendre de la part de Matignon. D'un côté, on apprenait hier que le projet de loi logement qui devait être présenté ce matin est repoussé à la semaine prochaine. Et de l'autre, Édouard Philippe, qui en précisait ce matin tout de même les contours sur France 2. Bonjour Anne-Laure Chouin.
Bonjour Camille.
Le chef du gouvernement veut mettre l'accent sur le logement social. Il affirme que la baisse des APL n'y aura aucun impact pour les locataires puisqu'on va demander aux bailleurs sociaux de baisser d'autant les loyers. Et plus généralement, il s'agit donc de développer encore le logement social. Avec quel nouveau levier pour le gouvernement ?
Alors d'abord, un rappel utile sur le financement du logement social en France. Pour construire un HLM, un bailleur social emprunte en moyenne 75% de la somme nécessaire à la Caisse des dépôts qui la finance, cette somme, par l'argent centralisé de l'épargne des Français, celle notamment déposés sur leur livret A, des prêts de long terme qui sont ensuite remboursés par les loyers des occupants de ces logements sociaux. Deuxième source de financement, les fonds propres des organismes HLM, 15% environ, et puis les collectivités locales et les employeurs via le 1% logement. Baisser les loyers dans les HLM, cela permettrait donc certes de diminuer d'autant le montant des aides de l'État au logement, mais cela aura des conséquences directes sur la capacité des bailleurs sociaux à rembourser leurs emprunts, avec en bout de chaîne des conséquences également sur leur capacité à rénover et à construire ces logements sociaux. Alors, une des solutions envisagées également ce matin par Édouard Philippe, ce serait de donner un coup d'accélérateur à l'accession à la propriété. Objectif affiché, 40 000 logements sociaux rachetés tous les ans par leurs anciens locataires. Cela fait longtemps que le dispositif existe. Pour qu'il fonctionne bien, il faut que les ménages modestes soient en capacité de s'endetter plus qu'ils ne le sont déjà. Tout dépendra donc des conditions qui leur seront faites.
Bon, alors Anne-Laure, on voit bien que les bailleurs sociaux sont mis au cœur du dispositif. Comment est-ce qu'ils réagissent pour l'instant ?
Alors de façon générale, ils sont favorables à une baisse des loyers. Cela fait même partie de leur mission sociale. Mais cela ne doit pas, selon eux, être lié à la réduction des APL. C'est ce que pense notamment le délégué général de l'Union sociale pour l'habitat, Frédéric Paul, qui estime que ces aides, les APL, sont réellement utiles à ceux à qui elles profitent. Généralisons l'encadrement des loyers dans le secteur privé et arrêtons de faire tout peser sur les bailleurs sociaux dont le travail est essentiel et efficace. C'est en substance que disent les organismes HLM qui proposent également de mettre l'accent sur les occupants de logements sociaux dont les revenus leur permettraient pourtant d'accéder au secteur privé, soit 3% des locataires.
Anne-Laure Chouin, merci pour toutes ces précisions. Les critiques s'accumulent autour de la politique d'accueil des migrants par la ville de Paris et par l'État. Ce matin, c'est l'association Utopia 56 après Médecins du Monde qui annonce qu'elle se retire du centre humanitaire de la Porte de la Chapelle. rappelle, un centre où elle intervenait en soutien d'Emmaüs. Utopia dénonce un traitement des réfugiés uniquement sous l'angle administratif qui n'a donc, selon elle, plus rien d'humanitaire mais qui se résume, je cite encore Utopia 56, à une traque aux migrants. La centrale nucléaire de Belleville-sur-Loire, c'est dans le Cher, centrale placée sous surveillance renforcée. C'est l'autorité de sûreté nucléaire qui l'a décidé ce matin face, dit-elle, à la dégradation là-bas du niveau de sûreté. EDF n'aurait pas suffisamment surveillé son site. L'Europe a à nouveau le vent en poupe. C'est le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, qui le dit. Il le dit dans son discours sur l'état de l'Union prononcé devant le Parlement de Strasbourg. Tout à l'heure, c'est son dernier discours puisqu'il quittera ses fonctions l'an prochain, Jean-Claude Juncker. Un discours résolument tourné vers l'avenir, vers la construction d'une Europe post-Brexit. Europe renforcée aussi par l'élection en France cette année d'Emmanuel Macron et la réélection attendue pour la semaine prochaine d'Angela Merkel en Allemagne. Bref, c'est le moment ou jamais pour Bruxelles et Juncker d'afficher de grandes ambitions, Quentin Dickinson.
Les objectifs prioritaires auront été passés en revue, union de l'énergie, de la sécurité, du numérique, c'est du classique. Mais l'on a noté que le langage s'est notablement durci sur le commerce international, plus question de renoncer à la réciprocité avec les partenaires américains ou asiatiques, ni d'autoriser le rachat incontrôlé par ceux-ci d'entreprises européennes de pointe, et d'annoncer l'ouverture de négociations avec l'Australie et avec la Nouvelle-Zélande. Les obstacles existent, poursuit M. Juncker. Ils s'appellent les travailleurs détachés, qui doivent être rémunérés et protégés à l'identique de leurs collègues du pays d'accueil, et le droit d'asile, qui est une obligation juridique et morale. Visant la Turquie, il martèle, sous les applaudissements des eurodéputés, qu'un pays qui jette en prison ses journalistes n'a pas vocation à rejoindre l'UE dans l'avenir prévisible, car l'Union européenne se construit autour des idéaux de liberté, d'égalité et de l'état de droit. Mais l'Europe a besoin d'un sursaut démocratique, dit-il, et de proposer la fusion des fonctions de président de la Commission européenne et de celle de président du Conseil européen, de même que la création du poste de ministre européen des Finances. Jean-Claude Juncker veut que la campagne des élections européennes de mai 2019 commence bien plus tôt que d'habitude, et il appuie explicitement la création de listes pan-européennes, ainsi que le projet d'Emmanuel Macron de tenir partout en Europe nombre de conventions citoyennes en 2018.
Quentin Dickinson, à New York, à présent au siège des Nations Unies, le sort des Rohingyas birmans est dans tous les esprits aujourd'hui. Le Conseil de sécurité se réunit à huis clos ce soir pour évoquer cette crise humanitaire sans précédent. Près de 400 000 membres de la minorité musulmane de Birmanie qui ont fui la répression dont ils sont victimes dans leur pays pour trouver refuge au Bangladesh. L'ONU dénonce un nettoyage ethnique et c'est dans ce contexte qu'on apprend l'absence à l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies aujourd'hui d'Aung San Suu Kyi. La prix Nobel de la paix annule son déplacement à New York. La numéro 2 du pouvoir birman désormais apparaît plus que jamais paralysée sur le dossier des Rohingyas. C'est l'analyse du chercheur à l'IRIS, Olivier Guillard.
Madame Aung San Suu Kyi aujourd'hui n'est plus une opposante embastillée, elle est conseillère d'État. C'est la numéro 2 officielle d'un gouvernement civil, mais d'un gouvernement civil qui n'a pas la totalité de l'autorité. Les militaires demeurent extrêmement déterminants dans l'équation politique nationale. C'est le chef d'état-major des armées qui nomme, par exemple, le ministre de la Défense, le ministre de l'Intérieur, le ministre des Affaires frontalières. Et tout ce qui relève de la sécurité n'est pas du tout dans le giron d'un gouvernement civil.
Autrement dit, pour ce qui est de la problématique des Rohingyas actuellement, elle n'a absolument pas la main sur ce qui se passe dans le nord de la Rakhine.
Ce dossier, il échappe totalement à Aung San Suu Kyi. Deuxième petit point également qui est important. Madame Aung San Suu Kyi également, si jamais elle voulait faire montre d'empathie à l'égard de cette minorité, qu'elle le fait, elle sait qu'elle s'aliène directement les militaires. Et à côté de cela, peut-être plus grave encore, le sort de la communauté Rohingya, donc une communauté qui est apatride d'après le droit birman aujourd'hui, elle s'aliénerait dans la minute où elle prendrait position trop fortement, elle s'aliénerait quasiment les 4/5 de la population qui lui demanderait des comptes. Mais Madame Aung San Suu Kyi, vous n'avez pas mieux à faire que vous inquiéter du sort de cette communauté, aussi tenue soit-il. Donc elle ne peut pas prendre le risque, elle est entre le marteau et l'enclume. Si jamais elle faisait montre d'une envie de se montrer plus en phase ou empathique avec la minorité en question, le coût politique de cette empathie sociale ou ethnique serait fatal à son gouvernement et certainement à la faible autorité dont elle dispose déjà au niveau national.
Olivier Guillard, chercheur à l'IRIS et directeur de l'information au cabinet de conseil en sécurité Crisis 24. Il était joint par Éric Biegala. Quand même, la médiation du Vatican n'a rien donné. C'est vers la République dominicaine et l'Espagne que se tournent désormais le pouvoir et l'opposition vénézuélien. Leur affrontement depuis le printemps, on le sait, a fait 125 morts et laissé le pays dans une profonde crise économique, au moins autant que politique. Aucun dialogue de paix n'a pu avoir lieu depuis des mois maintenant au Venezuela et l'espoir renaît tout de même aujourd'hui. Colombie. En République dominicaine, c'est là que les représentants du pouvoir et de l'opposition vont se croiser à défaut de discuter ensemble, Nabila Hamel.
Oui, aujourd'hui, les deux parties ne vont pas être face à face, mais il y aura des discussions séparées avec les médiateurs que sont le président dominicain et l'ancien chef du gouvernement espagnol, José Luis Zapatero. L'opposition vénézuélienne parle plutôt d'une réunion exploratoire. Le président Maduro enverra un représentant. La France sera attentive à ce dialogue en recevant hier son homologue vénézuélien. Jean-Yves Le Drian lui a rappelé clairement le risque de sanctions européennes et donc la nécessité pour Caracas de donner très vite des signes concrets de sa volonté de relancer les négociations sur des bases concrètes et crédibles avec l'opposition. Alors beaucoup de choses se sont passées depuis le mois d'avril dernier et ont contribué à rendre irréconciliables les positions des deux camps. L'opposition vénézuélienne a maintenu sa pression dans la rue en sortant quasi quotidiennement pour exiger le départ du président Maduro. Les anti-Maduro, membres de la coalition du MUD, la table pour l'unité démocratique, n'ont jamais cru d'ailleurs aux appels à la négociation du président vénézuélien, car il travaillait dans le même temps à un renforcement de son pouvoir. Le gouvernement vénézuélien a pris plusieurs mesures que les opposants ont qualifiées de dérives autoritaires, notamment l'arrestation de membres de l'opposition et de militaires opposés à la répression. Puis est venue l'idée de confisquer le pouvoir législatif de l'Assemblée démocratiquement élue et majoritairement contrôlée par l'opposition pour lui substituer cet été une assemblée constituante. Ce n'était pas le meilleur moyen de créer un climat d'apaisement pour un dialogue.
Merci beaucoup Nabila Hamel. En Tunisie, on a décidément du mal à solder les comptes de l'ère Ben Ali. Des manifestations étaient en cours ce matin à Tunis pour dénoncer un projet de loi dit de réconciliation administrative. Il prévoit d'amnistier 10 000 fonctionnaires qui ont bénéficié du système avant la révolution de Jasmin, avant donc de fonctionnaires du régime Ben Ali. Reportage depuis Tunis de Maureen Mercier.
Mobilisation hier soir sur l'avenue Bourguiba. Les jeunes qui ont fait la révolution de 2011 rempilent aujourd'hui devant le Parlement. Objectif, lutter jusqu'au vote de l'Assemblée. Sur les t-shirts, Menichem Sema, je ne pardonnerai pas. La loi sur la réconciliation administrative permettra d'amnistier environ 10 000 fonctionnaires. Les manifestants ne veulent pas d'amnistie. Trop facile.
Elle nous oblige à accepter ces gens-là de nouveau. C'est inadmissible, quoi.
La loi est contraire au principe de la révolution, donc on va revenir 10 pas en arrière.
Au départ, le président voulait aussi inclure les hommes d'affaires dans cette loi d'amnistie. Face à des mobilisations populaires, il a compris que ça ne passerait pas. Il tente encore de sauver les fonctionnaires, même si les Tunisiens ne sont toujours pas d'accord.
Nous aussi, on va faire la justice. C'est pas pour punir les gens, mais on veut justement savoir la vérité.
L'Assemblée devrait, selon toute vraisemblance, valider le texte. Samia Abou, députée de l'opposition.
Pourquoi M. le Président a proposé cette loi ? Elle nous conduit sur une politique pourrie, d'un État pourri. Malheureusement, ce projet de loi, il est venu pour protéger les mains de la corruption, pour protéger le système. Si cette loi passera, ça va préparer à une deuxième révolution. Elle sera pire.
Confirmation au milieu des manifestants, beaucoup ont le mot « révolution » à la bouche.
Un reportage depuis Tunis de Maureen Mercier. Midi 49 sur France Culture, c'est la séquence interview de ce journal et nous retrouvons donc Jérôme Sainte-Marie, politologue, président de la Société d'études et de conseils PollingVox. Sophie Delpont du service politique de France Culture est également restée avec nous. Alors Jérôme Sainte-Marie, nous avons parlé tout à l'heure de la réforme du droit du travail avec la contestation qui a démarré hier dans la rue. En tout cas, on sent bien que le gouvernement tente de diluer cette contestation en multipliant les annonces, les chantiers. C'est le signe, selon vous, d'une grande détermination à réformer tous azimuts ou c'est le signe d'une fébrilité ?
Un petit peu les deux. C'est-à-dire, effectivement, la détermination du gouvernement là, sur ce sujet est absolument évidente. Effectivement, c'était au cœur du programme du candidat Emmanuel Macron. Il a rien concédé d'ailleurs, y compris entre les deux tours, à ce sujet. Et les milieux qui ont soutenu la candidature d'Emmanuel Macron sont très attachés à ces réformes assez radicales de la société française. Donc il ne peut pas, c'est son ADN politique, il ne peut pas revenir là-dessus. En même temps, la fébrilité existe. Vous avez vu le sondage d'aujourd'hui, Ipsos, qui montre une chute très spectaculaire, encore de la popularité du président de la République. On est à un tiers simplement d'opinion favorable. C'est historiquement inédit, à ma connaissance. Et le fait est que ce gouvernement est un peu suspendu, puisqu'au fond, il ne peut pas résister à l'impopularité en s'appuyant sur le patrimoine culturel de la gauche ou de la droite. Vous savez, autrefois, même le gouvernement était impopulaire, mais il y avait toute une série de mythes, de références, d'historiques qui faisaient que beaucoup de gens, malgré tout, soutenaient le président de leur camp. Là, c'est une offre radicalement nouvelle, et plus ça va, et plus, au fond, on s'aperçoit que les soutiens dans l'opinion du gouvernement et du président de la République se rapprochent du score de premier tour du président de la République, 24%. Il n'y a pas tellement plus, au fond, de gens profondément libéraux dans ce pays.
Edouard Philippe disait ce matin, où est la démocratie quand on conteste systématiquement la majorité parlementaire? C'est pas un argument qui va être un peu court à force de dire on a été élu, on avait dit ce qu'on allait faire, donc vous ne pouvez rien dire en attendant les prochaines élections?
Toute l'ambiguïté de la situation, c'est que de fait, le président de la République, la majorité parlementaire, le gouvernement, tout cela procède d'élections tout à fait régulières. Il n'y a aucune contestation sur leur légitimité à être élu. Inversement, comme il n'y a pas eu un second tour normal, si j'ose dire, puisque le second tour s'est fait face à la candidate du Front National, et beaucoup de gens ont voté pour Emmanuel Macron à cette occasion sur des raisons qui n'ont rien à voir avec son programme lui-même, il n'y a pas, contrairement à ce qu'il avançait au Congrès de Versailles, un mandat clair de l'opinion, des électeurs, des citoyens, donc, pour réformer le pays. Donc c'est un pouvoir légitime, mais avec un programme qui n'a pas forcément été approuvé par une majorité de Français.
Une question de Sophie Delpont.
Et justement, ce programme d'Emmanuel Macron donc, est porté, incarné par le président de la République dans un mouvement, vous disiez, nouveau, dans lequel il a peu en fait, de lieutenants sur qui s'appuyer. Et ses propos récents sur les fainéants, peuvent-ils avoir un impact durable sur son mandat? Est-ce que c'est son marqueur, là, qui risque de traîner comme ça pendant des années?
Je pense que c'est un risque qui devient de plus en plus une certitude. On avait déjà eu au premier tour de l'élection présidentielle, ce que j'avais appelé moi un vote de classe, pour dire les choses clairement, c'est-à-dire on avait rarement eu dans une élection présidentielle des clivages sociaux qui apparaissaient autant. Disons qu'effectivement, les gens qui étaient ayant du patrimoine, ayant de l'espérance sociale, disons, les catégories supérieures avaient massivement voté pour Emmanuel Macron. Et cette notion de clivage social devient assez inquiétante, elle est réactivée sans cesse par ses propos qui sont perçus par beaucoup de Français comme l'expression d'une morgue sociale, et ça crée un climat un peu dangereux, puisque quand vous avez les clivages sociaux, les clivages politiques qui se superposent, au lieu de se croiser comme souvent, c'est un facteur d'une forme de violence latente dans la société française.
Quel est l'intérêt pour Emmanuel Macron de faire ce genre de sortie, d'attiser la radicalité verbal et potentiellement de faire monter encore l'opposition?
Je n'ai pas de sentiment que ce soit une stratégie. Je pense que ça peut être...
Ou c'est un dérapage?
Moi, ce que je constate, c'est que ces dérapages, comme vous les appelez, interviennent devant un public qui leur est favorable. Vous savez, les Français de l'étranger, par exemple, donc ceux qui sont un peu qui se sentent comme les gagnants un peu de la mobilité, les gagnants de la mondialisation, et ainsi de suite. C'est souvent dans une ambiance qui est un peu trop permissive, si vous voulez, qu'Emmanuel Macron se laisse aller à de tels propos. Je pense que ça a des effets tout à fait négatifs pour lui. Ça renforce Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise, qui ne sont pas des adversaires faciles pour lui. Il aurait plutôt intérêt, au fond, à ce que l'opposition soit incarnée par la candidate de second tour, Marine Le Pen. Ce serait une opposition beaucoup plus facile à isoler. Là, maintenant, émerge une opposition à la fois parlementaire et sociale qui peut faire la jonction. Ça n'empêchera pas de gouverner, mais ça peut quand même rendre beaucoup plus malaisé les réformes.
Et puis enfin, on a un Emmanuel Macron qui se positionne aussi sur des dossiers plus sociétaux, dossiers de mœurs. On voit donc, on remet sur le tapis le fait que la PMA, la procréation médicalement assistée, va être donc légalisée pour toutes les femmes dès l'an prochain. Voilà, ça c'était quelque chose qu'on savait déjà, mais on y a eu de la communication hier là-dessus, premier jour de manifestation. Ça veut dire que Emmanuel Macron, qui avait dit qu'il n'irait pas sur ce terrain-là pour enrober, disons, un peu son quinquennat, finalement, il vient quand même.
Ce n'est pas à moi de faire des procès d'intention, mais on constate effectivement que beaucoup de choses surgissent opportunément au moment où l'opinion est quand même très focalisée sur les sujets sociaux. Donc ça ressemble évidemment, en termes de communication, à une forme d'opération de diversion. C'est un peu risqué pour lui parce que, au fond, face à un mouvement social animé par la CGT et par la France insoumise pour sa partie politique, eh bien, Emmanuel Macron et Édouard Philippe peuvent espérer que ça rende plus indulgent à leur égard une bonne partie des sympathisants de droite. S'ils vont en même temps sur les sujets sociétaux, comme la PMA, où là il y a de fortes résistances dans les milieux conservateurs, eh bien, ils risquent de perdre sur tous les tableaux.
Merci beaucoup, Jérôme Sainte-Marie, d'avoir accepté l'invitation du Midi 30 de France Culture. Je rappelle que vous présidez la société de conseil et d'études Polling Vox. Les deux tiers de la France sous les averses, ça c'est pour la météo. En fait, il n'y a bien que l'extrême sud-est du pays qui conserve du soleil et des températures comprises cet après-midi entre 25 et 28 degrés. Ailleurs, donc grisaille, pluie et pas plus de 17 à 24 degrés au thermomètre. Merci à Yacine Bouzard qui réalisait ce journal. À 18h, vous retrouverez Aurélie Kiefer.